Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Une fois n'est pas coutume, quelques jours après avoir consacré une de nos émissions au phénomène de l'abstention, voilà que nous récidivons. Les plus fidèles de nos auditeurs n'auront aucun mal à comprendre les raisons de cette nouvelle programmation. Il y eut tellement de passion lors de la première discussion entre Antoine Payon d'une part et trois des membres de notre club du vendredi d'autre part, que la question que nous avions posée, peut-on politiser l'abstention, est restée en suspens. Épisode d'autant plus frustrant que l'abstention semble avoir changé de dimension cette année électorale, à la fois quantitativement et qualitativement. Quantitativement, une récente étude du CEVIPOF l'évalue à 32% au premier tour de la prochaine présidentielle, contre 20,5% en 2012. Qualitativement, l'abstentionniste ne se résume plus à la figure du pêcheur à la ligne, négligeant d'assumer ses devoirs de citoyen. Il serait aussi désormais un acteur engagé politiquement, trouvant dans le fait de ne pas aller voter une façon d'exprimer ses propres idées. Alors, qui vote pour l'abstention ? C'est la question que nous posons ce soir à Céline Braconnier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez l'Institut d'études politiques de Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes professeur en sciences politiques. Vous avez notamment publié « La démocratie de l'abstention » qui est disponible en folio, ouvrage publié avec Jean-Yves Dormagen. Et puis également aux presses de Sciences Po en 2015, « Les inaudibles, sociologie politique des précaires ». Pour discuter avec vous, Brice Teinturier, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général délégué de l'Institut Ipsos, vous avez publié... tout récemment, plus rien à faire, plus rien à foutre. La vraie crise de la démocratie aux éditions Robert Laffont, qui vous a permis de populariser à la vitesse grand V l'acronyme de PRAF. Et c'est un livre qui vous a valu le prix du livre politique de l'année, c'est ça ?
Oui.
Pour discuter avec vous, c'est ce que j'ai déjà dit à votre sujet, mais vous êtes trois, non même vous êtes quatre. Martial Foucault, c'est le troisième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du CEVIPOF, spécialiste de sociologie électorale. Le CEVIPOF qui produit donc une enquête sur les intentions d'abstention pour la présidentielle, avec cette enquête produite avec la Fondation Jean Jaurès. Et puis notre quatrième invité, il est au téléphone depuis Angers, il s'agit de Jamel Blanchard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le coprésident de la coordination Passons-nous, coordination qui avait été créée en 2014 pour une prise en compte des aspirations des quartiers populaires. Et vous travaillez à Angers pour l'association des jeunes de la Roseraie. Bah, vous nous expliquerez comment vous ressentez, vous, sur le terrain, la nature peut-être des abstentions et ce que vous disent les personnes qui considèrent qu'elles n'ont pas envie d'aller voter. Mais pour commencer peut-être cette discussion, faut-il commencer par ceux dont on est sûr qu'ils n'iront pas voter, tout simplement parce qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Céline Braconnier, on en sait un peu plus depuis que l'INSEE a publié les résultats des inscriptions qui se sont achevées le 31 décembre dernier.
Exactement. Il y a quelques jours, l'INSEE a fait paraître deux petits flashs qui font état de l'état des listes pour la prochaine élection présidentielle. En expliquant qu'il y avait désormais 6 millions de non-inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire une proportion un petit peu plus élevée que ce qu'on a enregistré à la dernière présidentielle et même à la précédente. Voilà, il y a un élément qui laisse penser qu'il n'y a pas eu le rush annoncé, parce qu'au 31 décembre, évidemment, les journalistes s'étaient attardés sur les queues qu'il y a systématiquement une année de présidentielle devant les mairies. Ça n'a pas été le rush annoncé, loin de là. On est plutôt dans un ordre assez bas de non-inscrits. Il y a aussi d'autres indicateurs. Il y a le taux de sortie de la non-inscription qui est plus bas qu'à la présidentielle précédente. Le pourcentage aussi de gens qui ont déménagé et qui se sont réinscrits. Du côté de l'inscription volontaire, en tout cas, il y a des indicateurs très solides du fait que le mouvement n'est pas un mouvement de mobilisation pour l'élection à venir.
Pas de rush annoncé, même s'il y a quand même eu une augmentation du nombre de nouveaux inscrits par rapport à l'année précédente, plus 1,8%, Martial Foucault, mais ça c'est assez traditionnel, c'est-à-dire quand on s'achemine vers une année aussi riche en élections que 2017, c'est-à-dire avec et la présidentielle et la législative, ça provoque toujours un peu plus de d'inscriptions, mais c'est vrai que ça n'est pas le même enthousiasme peut-être, on va dire, que lors des précédents scrutins.
Oui, non, c'est vrai,
La difficulté avec ces éléments chiffrés, c'est de, pour moi, c'est véritablement de connaître quel est le corps électoral théorique. C'est très compliqué de savoir aujourd'hui combien d'électeurs devraient voter s'ils remplissaient toutes les conditions nécessaires pour participer à une élection.
Donc, quand l'INSEE c'est très compliqué, ça devrait être simple. Tous les plus de 18 ans sont censés voter, non ?
Oui, mais quand on regarde la démographie et quand on utilise les données de recensement de l'INSEE, l'ensemble des Français de plus de 18 ans qui donc sont en âge de voter et que l'on essaye d'additionner très simplement le nombre de personnes aujourd'hui inscrites sur liste électorale, les personnes qui se sont nouvellement inscrites avant décembre 2016, plus de 800 000 personnes, on a des chiffres différents entre l'ensemble des Français de plus de 18 ans. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ceux qui sont en âge théoriquement d'aller voter et ceux qui sont réellement inscrits, on a beaucoup de difficultés à trouver ce chiffre magique où il y aurait identité parfaite entre ces deux corps. Donc c'est quand on travaille en sociologie électorale sur ce que va être l'élection 2017, on est toujours un petit peu gêné parce que ce qui moi m'intéresse à titre personnel, mais comme chercheur, c'est de comprendre et de connaître le profil sociologique des abstentionnistes. On connaît le profil, ou on essaye de s'approcher du profil sociologique des électeurs. On a plein d'enquêtes pour cela, de toutes sortes. Mais connaître le profil sociologique des gens qui ne sont pas inscrits, c'est beaucoup plus difficile. Et Céline Braconnier a eu l'occasion, avec Jean-Yves Dormagin, de regarder ça sur différents terrains. Mais aujourd'hui, on est très embarrassé parce qu'on ne connaît pas exactement, je dis exactement, c'est vraiment une précision. Et l'INSEE, c'est vrai, n'est pas toujours très coopératif avec le monde de la science politique et ceux qui travaillent sur les élections pour nous aider à percer ce mystère. Et pourquoi c'est important ? Parce que on sait finalement quels sont les ressorts de la participation. Mais les ressorts de la non-inscription sont un angle mort de la discipline.
Alors on va voir justement ce soir si malgré ces imprécisions statistiques, on arrive quand même à avancer un petit peu sur le profil sociologique des abstentionnistes, à la fois ceux qui font le choix de s'abstenir alors qu'ils sont inscrits, et puis ceux qui ne sont pas inscrits. Est-ce que d'ailleurs ces non-inscrits sur les listes électorales, Brice Teinturier, peuvent faire partie de cette famille des praphistes, c'est-à-dire de ceux qui n'en ont plus rien à faire, qui n'en ont plus rien à foutre?
Enfin, déjà, pour préciser ce que j'ai essayé de mettre derrière cet acronyme PRAF, c'est de recenser les différences sur la base de différents indicateurs, les Français qui aujourd'hui ont pris énormément de distance et se désengagent à l'égard de la vie politique, Donc la grande partie de ces personnes-là ira dans l'abstention, pas toutes, c'est d'ailleurs tout l'enjeu. C'est l'enjeu d'une campagne électorale que d'être capable de les réengager. Et il y en a qui seront réengagés. Donc il faudrait pas se dire un peu mécaniquement que ceux que j'appelle le PRAF sont à 100% des abstentionnistes. Moi, il me semble que le courant qui est un peu différent de ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, parce que ce n'est pas la photographie, c'est plutôt la dynamique, le courant qui me paraît extrêmement important à déceler, à identifier, à comprendre, c'est effectivement celui qui a marqué la dernière décennie et qui me semble être véritablement le passage d'une simple déception à l'égard du politique qu'on avait connu après les années 80 à un désengagement beaucoup plus profond. Et ça, vous pouvez le cerner à travers des indicateurs qui concernent la politique. Donc moi, j'ai retenu ceux qui nous disent à propos de la politique indifférence ou dégoût, parce qu'on se détourne de quelque chose qui vous dégoûte, ce qui n'est pas la même chose que ceux qui vous disent « je suis déçu » ou « je suis en colère », par exemple. Quand vous êtes en colère, vous êtes toujours en relation avec la politique. Donc c'est ça que j'appelle le PRAF, et j'ai essayé d'en comprendre les multiples causes. On peut le regarder aussi, on peut l'analyser, ce PRAF, à partir des questions plus directes, plus frontales, où vous demandez directement aux Français comment ils ont évolué dans leur rapport à la politique. Et j'avais 28% de Français qui me disaient « j'étais intéressé par la politique, je ne le suis plus ». Donc vous avez différents degrés. Le PRAF, c'est une posture, c'est une attitude. Elle peut être relativement soft, et de ce point de vue, beaucoup de Français peuvent à la fois voter et en même temps, à certains moments, éprouver ce sentiment de lassitude ou de distance. Et puis si c'est une attitude de plus forte intensité et qui est plus répétée dans le temps, là pour le coup, vous devenez quelqu'un qui prend une distance beaucoup plus forte vis-à-vis de la politique et de l'élection.
Pour éprouver ce sentiment de lassitude, on peut imaginer que ce sont d'abord des gens qui ont voté et qui, puis, après avoir été déçus, un peu peut-être désabusés, qui choisissent de ne plus le faire. Mais s'agissant de ceux qui ne sont pas inscrits, qui se sont peut-être jamais inscrits sur les listes électorales, on est sans doute dans un autre phénomène. Est-ce que vous en rencontrez, vous, sur le terrain, Jamel Blanchard, des personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes, et qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes ?
J'ai souvent des discussions avec des personnes, parce que c'est complètement aléatoire, hein, ceux qui s'abstiennent, il y en a qui vont s'abstenir à des élections régionales, d'autres élections nationales, enfin, il y en a qui ne sont pas inscrites volontairement, j'en connais, puisqu'on a des bénévoles chez nous, il y en a une, par exemple, avec qui je discutais, qui me dit non, je ne suis pas inscrite, parce que c'est justement par acte politique que je ne m'inscris pas. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas en ce système-là. Non seulement j'y crois pas, et pourtant, tous les jours, je participe à la vie de la cité, et je crois à une autre réconciliation de la société, à une autre forme de société. Et quand je vais faire un tour à la ZAD ou des personnes que je connais, effectivement, de manière concrète, c'est la meilleure des politiques qui puisse démontrer que justement ceux qui s'abstiennent parfois sont ceux qui sont le plus démonstratifs en politique. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a d'autres qui effectivement s'abstiennent, ne sont pas inscrits tout simplement parce qu'ils s'y intéressent pas, tout simplement parce qu'effectivement ils sont dégoûtés de la vie politique à travers ce qu'ils envoient dans les médias, et donc ils revendiquent le fait de s'abstenir.
Céline Braconnier, comment se fait-il que dans un pays où aujourd'hui, quand on atteint la majorité, on est inscrit automatiquement sur les listes électorales, le nombre de non-inscrits puisse être encore aussi important ? Ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre.
Alors oui, il est assez important et contrairement à ce que disait Martial Foucault, je pense qu'on en a une photographie assez précise grâce aux données de la statistique publique. Ça me gêne de défendre ce que fait l'INSEE, mais quand même sur ce plan-là, on a la chance d'avoir des agents de l'INSEE qui travaillent sur des données de comportement effectif, donc sur un échantillon de 200 000 personnes issues du recensement, issues des données de recensement, et qui permettent d'avoir une vision très précise de la sociologie de la non-inscription qui n'est pas exactement la même que celle de la mal-inscription ou encore de l'abstention. On sait très bien, même si pour cette année-là, il y a pu avoir quelques changements, puisque ce qui a été publié par l'INSEE il y a quelques jours, ce sont uniquement des données chiffrées qui nous permettent de comparer la dynamique par rapport à 2012, c'est-à-dire qu'il y a une proportion un peu plus importante de non-inscrits, mais on n'a pas encore eu de parution et d'éléments qui nous permettent de mesurer la différence de sociologie par rapport à la présidentielle précédente. Mais
ça
globalement...
On peut définir un profil type du non-inscrit ?
Un profil du non-inscrit, bien sûr. Bien sûr, l'absence de diplôme, ce sont des personnes, des hommes de plus de 30 ans, jeunes, entre 30 et 40 ans, qui correspondent à une figure idéale typique du non-inscrit, non diplômé, a fortiori au chômage, et surtout ce sont des Français d'origine étrangère qui sont beaucoup plus en dehors des listes électorales que les autres citoyens français. Donc il y a quand même des éléments sociologiques très très forts qui expliquent que certaines catégories de citoyens soient maintenues à l'écart du vote par cette étape de l'inscription. Et pour revenir à votre question, pourquoi aujourd'hui autant de non-inscrits alors que les jeunes effectivement bénéficient d'une inscription d'office l'année de leur 18e anniversaire? Parce que on est dans le cadre d'une procédure extrêmement complexe qui s'impose pas seulement à ceux qui vont rentrer pour la première fois sur les listes, mais à tous ceux qui déménagent, et on déménage de plus en plus, hein, on est dans une société de la mobilité résidentielle, qui ne font pas leur changement, qui ne se réinscrivent pas et qui sont radiés des listes au bout d'un moment. Ces personnes-là, elles redeviennent non inscrites et elles n'ont pas accès au vote. Donc on a une proportion beaucoup trop importante pour une démocratie comme la nôtre, de personnes qui sont maintenues à l'écart du vote par cette procédure. Et assez non-inscrits, il faut ajouter ceux qui sont encore beaucoup plus importants en nombre, ce sont ceux qui sont mal inscrits, donc qui sont inscrits mais loin de chez eux.
À propos desquels on va parler dans un court instant. Jamel Blanchard, est-ce que ce que vient de décrire Céline Braconnier, ça rejoint les observations que vous faites, vous, sur le terrain ?
Alors, je serais peut-être pas aussi catégorique, mais effectivement, oui, je pourrais observer qu'il y a certains jeunes, notamment des quartiers populaires, qui ne seraient pas inscrits. Après, nous qui avons participé en 2006 dans le cadre de la JR à inviter aux inscriptions sur les listes électorales, ça ne veut pas dire non plus après d'aller voter. On l'a aussi, dans le cadre de Passons-nous, fait dernièrement une invitation à l'inscription sur les électorales. Alors, c'était décidé évidemment collégialement. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui s'abstiennent parfois, de manière ponctuelle. Ce que j'observe, moi, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas inscrits. Et quand on éventuellement on les accompagne ou qu'on les, quand ils ont décidé d'aller s'inscrire, c'est parfois compliqué aussi d'aller dans une mairie et de voir que il faut des documents types, notamment la justification de la domiciliation de domicile pour certains qui sont en cohabitation ou qui n'ont pas forcément de logement. C'est parfois compliqué. Donc c'est tout ça, c'est aussi un frein parce que c'est aussi une démarche.
Martial Foucault.
Oui, non, je voudrais juste revenir sur ce point, moi, qui me semble essentiel, et je ne sais pas si c'est source de désaccord, mais disons les choses très très simples. C'est très arithmétique. On sait avec les données de recensement, et je pense que tout le monde qui s'intéresse à ces questions doit aussi regarder démographiquement le nombre de Français qui ont 18 ans et plus, c'est 55 millions de personnes. Quand on a un corps électoral à 45 millions de personnes et que l'INSEE annonce 6 millions de personnes aujourd'hui faisant partie des non-inscrits, il manque un certain nombre de personnes pour arriver au corps électoral théorique. Donc il ne s'agit pas de dire l'INSEE est producteur d'une statistique publique erronée. Non, ce n'est pas ça. Ce que publie l'INSEE est juste. Nous, on doit s'interroger sur le différentiel qui existe entre ce corps électoral théorique et la somme des personnes inscrites sur les listes électorales.
Et quelle réponse vous avez à cette interrogation?
Oui, c'est ça, à partir de quoi?
Eh bien, il nous faut continuer à dialoguer avec l'INSEE pour essayer de comprendre ces éléments qui manquent pour arriver au potentiel. Est-ce qu'il y a des catégories qui ne sont pas comprises pour constituer ce corps électoral théorique? Pour moi, ça me semble fondamental. Aujourd'hui, quand on fait la somme, on n'a pas l'égalité attendue. Alors, soit il y a d'autres éléments qui aujourd'hui empêchent l'INSEE dans les critères utilisés pour définir les personnes non inscrites, mais moi je serais très très curieux de les connaître, parce que c'est quand même, on peut pas simplement dire voilà le nombre de personnes inscrites, voilà les personnes non inscrites, et on ne s'interroge pas par rapport à un corps électoral théorique. Et puis un deuxième point qui me semble important par rapport à ce qui vient d'être dit. Bien sûr que l'INSEE travaille sur ce fichier de 200 000, un échantillonnage de 200 000 personnes. Il faut être aussi prudent, c'est-à-dire on peut pas à la fois dire ça peut faire écho à l'attaque qui est faite aux instituts de sondage en disant lorsqu'on utilise la méthode de l'échantillonnage, elle est dans un cas très discutable pour apprécier, caractériser le niveau d'abstention, et dire dans un autre cas, elle est parfaite pour comprendre qui sont ces personnes non inscrites. Il faut être très prudent. C'est-à-dire, on peut pas à la fois considérer que ce que nous dit l'INSEE quand on tire sur un groupe, c'est un échantillonnage, il y en a 200 000 qui représenteraient 6 millions de personnes, dire finalement ce qu'on en retire, c'est la Bible, et dans un autre cas, c'est à jeter aux oubliettes parce que c'est pas représentatif. Pour moi, c'est aussi un point important, et je pense qu'il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux, parce que on a eu, depuis la publication que vous avez rappelé tout à l'heure de cette estimation de l'abstention aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une semaine à 32%, en nous disant mais ce n'est pas le reflet du comportement électoral, ce n'est qu'une appréciation, c'est une enquête, même si ce sont 15 000 personnes interrogées, ça ne suffit pas à être finalement objectivé par ce que serait la réalité du premier tour de cette élection présidentielle.
Juste un mot, Céline Braconnier.
Je pense que quand on considère que les données INSEE pour l'inscription sont des données solides, on considère aussi que les données INSEE qui permettent de comprendre la sociologie de l'abstention sont également très solides, ce qui est mon cas. En tout cas, à défaut d'avoir des données plus solides que celles de l'INSEE, voilà, là on a quelque part des données qui ne dépendent pas du déclaratif, qui ne dépendent pas de biais de sélection qu'on peut avoir avec d'autres méthodes d'enquête. Donc non, là, on a des données qui ne sont pas parfaites, mais qui, en tout cas, peuvent donner des lignes de repère pour comprendre ce que c'est que la non-inscription et l'abstention.
Et finalement, l'intérêt, c'est sans doute aussi de recouper l'ensemble des données, des techniques d'enquête pour avoir une vision un petit peu affinée du profil de ces personnes qui nous intéressent ce soir, que sont les abstentionnistes. Justement, Brice Teinturier, comme directeur général d'Ipsos, est-ce que on est capable aujourd'hui, alors à travers des enquêtes qui sont des enquêtes qualitatives, de comprendre pour quelles raisons certaines personnes s'abstiennent? Tout à l'heure, Céline Braconnier nous parlait de cette population des mal inscrits, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas leur bureau de vote sur leur lieu de résidence, peut-être parce que notamment elles ont déménagé. Là, est-ce qu'on peut en faire en tout cas une des raisons de l'abstention?
Oui, en tous les cas, ce qu'on peut essayer de comprendre par les enquêtes d'opinion, c'est quelles sont les motivations, au-delà du profil strict et de la controverse qui vous oppose, quelles sont les motivations qui vont nourrir l'abstention. Et il y en a évidemment de différentes natures. Il y a d'abord l'offre de candidature qui ne satisfait pas, et c'est ce qu'on mesure parfaitement, qui ne satisfait pas la plus grande partie de ceux qui nous disent qu'ils n'iront pas voter. Ils n'iront pas voter parce que ils ne trouvent pas, parmi les candidats, un candidat qui pourrait les satisfaire. Il y a également, mais à un niveau moindre, l'idée que ce jour-là, ils ne seront pas sur leur lieu, donc c'est ce que vous désignez, sur le lieu où ils pourraient aller voter. Mais c'est beaucoup plus mineur par rapport aux questions d'offre politique et de satisfaction à l'égard de l'offre politique. Il y a aussi le sentiment que ça ne sert à rien. Et ça, c'est quelque chose qui est un phénomène grandissant, qui est que voter ou ne pas voter, avec, depuis 81, toute une série d'alternances, parfois diluées par les cohabitations, mais parfois non diluées comme au cours de la dernière décennie, eh bien, c'est quelque chose qui a produit cette idée que, fondamentalement, gauche ou droite au pouvoir, ça ne change rien, qu'il y a une crise du résultat. Et évidemment, c'est un puissant facteur qui va pousser vers l'abstention. Ce n'est pas le seul, mais il est important. Et vous avez là les deux plus importants, hein, le décalage avec l'offre souhaitée, et puis l'idée de l'inutilité du vote, parce qu'il y aurait crise du résultat. Et puis, il y a un autre phénomène, je crois, qui est en train d'apparaître très, très fortement. C'est, indépendamment du résultat, indépendamment des candidats, de toute façon, on ne nous écoute pas et on ne nous entend pas. Et là, c'est le décalage perçu entre ceux qui vont prendre des décisions à notre place. La démocratie représentative, c'est une habilitation à prendre de la décision à notre place. Et ce que les citoyens voudraient qu'on prenne comme solution et comme décision, qui fait que vous en avez de plus en plus qui se mettent hors jeu. Donc on est là dans des explications qui sont des explications politiques. C'est pas une abstention subie par exclusion sociologique, c'est plutôt un phénomène grandissant qui provient d'une insatisfaction fondamentale. Et moi, les graphistes que j'essaye là d'analyser, ce ne sont pas ceux qu'on a évoqués en tout début d'émission, parce que ce sont fondamentalement des électeurs qui étaient intéressés par la politique, qui allaient voter justement, et qui petit à petit, donc c'est un processus, s'en sont détachés. On parlait au tout début d'un autre phénomène qui est ceux qui, pour différentes raisons, notamment sociologiques, sont exclus du processus. Alors, il peut s'y ajouter cette idée que ça ne sert à rien aussi, qu'ils sont dans des situations de précarité ou de vie telle que ça leur paraît extrêmement éloigné de leurs préoccupations et de leurs intérêts. Mais ce sont des populations, les non-inscrits, qui, dès le départ, n'ont pas un rapport, on va dire, de relation à la politique et à la croyance politique fort.
Marcel Foucault, dans les 32% qui pourraient s'abstenir au premier tour de la présidentielle, hein, c'est une étude, mais on verra bien quel sera effectivement le taux d'abstention au soir de ce premier tour. Mais est-ce qu'on retrouve l'ensemble des profils qui sont évoqués par Brice Teinturier dans le petit article que vous avez fait avec Gilles Finkelstein dans Le Monde pour expliquer un petit peu les résultats de cette étude? Vous disiez que finalement les abstentionnistes, là, ce sont plutôt des gens qui sont encore dans le jeu plutôt que des gens qui sont hors jeu, qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, le nombre de Français qui se déclaraient certains, non pas une seule fois, pas lors d'une enquête, mais depuis le mois de septembre 2016, ces mêmes Français que nous suivons, ce sont seulement 2% du corps électoral qui nous déclare vague après vague être certain de ne pas aller voter au premier tour. Donc, c'est un petit groupe, c'est marginal. En revanche, après, on a des nuances. On a des électeurs qui sont plus proche de s'abstenir, parce que depuis 7 mois, on observe une évolution très très faible. Ce sont des gens, pour le dire très simplement, sur une échelle de 0 à 10, on leur demande leur positionnement vis-à-vis d'une participation. Et ce sont environ 10% d'entre eux qui se situent entre 1 et 5. Et on a 20% de Français qui aujourd'hui ne sont pas encore, n'ont pas été activés, soit par une offre politique, soit par une condition, j'allais dire, sociale, et je voudrais dire un mot là-dessus, qui ne sont pas encore convaincus. Mais c'est aussi une campagne très particulière. Donc il faut bien voir que la façon de réactiver et d'engager ces électeurs va être compliquée. Ouais. Moi, ce qui me frappe dans cette enquête, qu'on prend ces 32%, disons 30%, généraliser, par rapport à tout ce qui a été observé par le passé en France et ailleurs, d'ailleurs, il y a un élément, moi, qui me frappe, c'est que cette fois-ci, on n'observe pas une différence très, très grande au regard du niveau de diplôme. Or, ça a toujours été une variable très lourde pour expliquer l'abstention et la participation. On n'a pas des différences très significatives entre une personne non diplômée et une personne diplômée pour expliquer le choix d'être abstentionniste ou d'être participant. En revanche, il y a un phénomène qui tend à creuser l'écart entre la participation et l'abstention. C'est une condition matérielle. Le niveau de revenu, et c'est pas seulement le revenu qu'il faut regarder, mais ça joue considérablement. C'est aussi le niveau de patrimoine. Dans ce débat sur les inégalités économiques, c'est pas seulement le revenu du travail, ce sont aussi les revenus du capital qui sont source vraiment d'éclatement entre les participants et les non-participants.
Céline Braconnier.
Alors, justement, ce sont des données qui interrogent, me semble-t-il. Alors, à moins que tout s'explique par des changements majeurs hein, des comportements électoraux des citoyens français, jusque-là, il y a toujours eu une vingtaine de points de différence dans le comportement participationniste des diplômés du supérieur et des moins diplômés parmi les Français. Au moins 20 points. Hein, y compris pour la présidentielle, alors qu'on sait très bien que c'est l'élection qui mobilise le plus, jusque-là en tout cas, qui fait revenir aux urnes ceux qui s'abstiennent pour les autres scrutins et qui fait participer le plus de non-diplômés.
Peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de politisation de l'abstention et que c'est quelque chose qui est davantage assumé que ça ne l'était autrefois. Est-ce que cette hypothèse-là peut
alors, il y a d'autres hypothèses. C'est une hypothèse, puisque c'est celle qui est soutenue en ce moment. Ce n'est pas forcément la mienne, parce que j'ai du mal à penser que tout puisse changer en aussi peu de temps. On est face à des phénomènes structurels absolument importants et majeurs. Et je pense plutôt on peut se poser la question d'un biais de sélection de la méthode d'enquête. Je pense que les gens qui répondent aux enquêtes électorales...
Vous avez décidé vraiment de vous fâcher avec Martial Foucault
non,
ce soir.
Non, on ne parle pas de même type de données, du même type d'approche. Donc c'est aussi logique qu'on n'aboutisse pas au même résultat. Les gens qui répondent aux études électorales, on le sait très très bien, sont plus politisés que les catégories qui sont censées représenter. Et ça mène pour tout un tas de raisons, au final, à mon sens, à surpolitiser l'abstention. En réalité, je ne vois pas pourquoi l'abstention serait devenue plus politique aujourd'hui. On a des éléments...
Pardonnez-moi, j'émets une autre hypothèse. On pourrait considérer que le vote blanc, par exemple, qui serait une forme de choix qui serait donné aux électeurs, mais qui n'est pas suffisamment pris en compte, n'étant pas quelque chose d'efficace, on se reporterait vers l'abstention qui a une dimension beaucoup plus finalement performative par rapport au... Non ?
Oui, alors il se trouve que la sociologie du vote blanc n'a rien à voir avec celle de l'abstention, encore une fois, jusqu'à aujourd'hui. Alors après, tout peut changer, on est peut-être face à une révolution des comportements, mais moi je suis un peu sociologue, donc je résiste à cette
Mais ça ressemble peut-être à celle du vote des ouvriers, parce qu'on a eu cette question il y a à peine 10 ans, quand on a vu observer un mouvement... assez rapide.
Brice Saint-Turier,
peut y avoir des ouvriers.
J'aurais bien voulu terminer mon raisonnement, mais c'est pas grave.
Allez, Brice Saint-Turier, promis, je reviens vers vous, Céline Braconnier.
Non, il peut y avoir une tentative d'explication, je crois, dans l'émergence et la puissance du Front National aussi. Tout simplement, si la question du diplôme est moins structurante dans la question de l'abstention ou de la participation, c'est aussi parce que vous avez une force politique qui draine une partie des électeurs qui sinon se seraient abstenus, et ces électeurs-là, au niveau du Front National, sont des électeurs plutôt populaires, plutôt moins diplômés, et que le Front National remet dans le jeu politique. Donc je pense, sans savoir avec une absolue certitude s'il y a une rupture importante ou totale ou moins importante avec ce qu'on avait comme sociologie, mais que la force du Front National est un des facteurs qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui l'abstention est moins marquée qu'auparavant par principalement un niveau de diplôme faible. Bon, encore une fois, tout simplement, le Front National en remet dans le jeu et c'est important. Inversement, mais les deux explications du coup vont se cumuler, vous avez un élargissement auprès de catégories diplômées d'une prise de distance à l'égard de la vie politique et de ce sentiment d'inutilité. Et bien les deux se cumulant, je pense que ça explique au moins en partie pourquoi, et ça ne me semble pas être totalement aberrant ni relevé d'un biais d'enquête, pourquoi vous avez une structure de l'abstention qui évolue par rapport à ce qu'on connaissait auparavant.
Céline Braconnier.
Alors, je suis plutôt d'accord avec le second point, c'est-à-dire que qu'il y ait une partie de l'abstention qui soit motivée politiquement et qu'on enregistre aujourd'hui dans des catégories dans lesquelles on enregistre jusque-là de l'abstention constante, une valorisation de l'abstention, ou au moins une interrogation sur le fait de se rendre aux urnes, ça, on l'enregistre.
Et on le voit d'ailleurs dans la production éditoriale, avec un certain nombre d'ouvrages qui sont consacrés à cette promotion de l'abstention.
Tout à fait, mais de la même façon qu'il y a quelques années, c'était le vote blanc qui était un moyen d'exprimer son engagement politique autrement. Donc là, effectivement, dans les milieux politisés, on enregistre un doute sur le fait d'aller participer ou non. Donc ça, je ne nie pas. Du côté du Front National, je pense que ce qui s'est passé au cours des scrutins intermédiaires entre les deux présidentielles montre plutôt la capacité qu'a ce parti à faire voter un électorat peu diplômé.
Justement, c'est bien ce que je dis, justement. Ouais, ce qui explique que la structure des abstentionnistes soit un peu moins marquée par le non-diplôme.
Mais la structure dont vous parlez, elle a pour l'instant été établie par une enquête par déclaration. Et on est d'accord, on n'a aucune autre donnée qui nous permette de parler de l'abstention d'une façon extrêmement différente par rapport à ce qu'on sait de ce qu'est l'abstention. L'abstention, c'est un comportement qui est soumis à de forts déterminants sociologiques. C'est le niveau de diplôme, c'est le niveau de revenus, c'est la catégorie socio-professionnelle, c'est l'âge surtout. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a aucun autre indicateur que ce sondage qui nous incite à penser une révolution de l'abstention.
Alors, je vais revenir vers Marcel Foucault, mais je voudrais qu'on réentende à nouveau Jamel Blanchard qui nous attend sagement du côté d'Angers, puisqu'on parle de la question du Front National. Jamel Blanchard, est-ce que là aussi, dans ce que vous constatez, vraiment sur le terrain, vous sentez que c'est un parti politique qui peut avoir un effet justement sur le niveau de l'abstention, c'est-à-dire qui serait en mesure de convaincre certains électeurs qui seraient peut-être un peu détournés du vote de retourner voter.
Alors, je ne sais pas si ça peut les convaincre. Ce que je sais qu'aujourd'hui, la donne est différente de celle qu'on a eue à une époque où on avait, à l'époque de Chirac contre Le Pen. Il est fort possible qu'au deuxième tour d'élection, des gens qui n'aillent pas voter, que ce soit Macron et Le Pen ensemble, qui n'aillent pas voter ni pour l'un ni pour l'autre. Je vais vous dire, dans les quartiers populaires, on a beaucoup de... vous parliez tout à l'heure de profils sociologiques. Je trouve ça un petit peu dur, parce que je trouve ça un peu catégorique. On a l'impression que c'est une fatalité, parce qu'on est issu des quartiers populaires, ou parce qu'on est un peu plus pauvre, ou parce qu'on a moins de diplômes. Non, je crois que dans les discussions qui se font dans les bars ou sur les places, justement, il y a des gens qui comprennent très bien qu'à chaque fois qu'il y a des élections, on voit toujours les mêmes personnes se pavaner dans les quartiers alors qu'on les voit pas pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et qu'à chaque fois qu'ils sont élus, souvent ils oublient ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire leur programme électoral, ce qu'ils ont indiqué, et que finalement, quand ils sont au pouvoir, ils vont travailler pour une catégorie de personnes. On les voit dans leur programme électoral ou dans leur discussion, dans leur discours, nourrir une certaine division, et c'est ça aussi qui agite un petit peu beaucoup de monde. On voit rarement, enfin, ça existe certainement, mais les candidats politiques, ils vont parler pour tout le monde. Quand je dis pour tout le monde, c'est pour les Français et pour les étrangers. Un maire, quand il est élu maire, il est maire de sa commune, qu'on soit français ou étranger, qui paye aussi leur taxe d'habitation. Un président de la République, il est là pour protéger les Français et les étrangers. Et malheureusement, tous ces discours de division, pour des jeunes qui sont issus de la dite immigration, eux, ils pensent à leurs parents, ils pensent à leur famille. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on a fait pour nos parents? Qu'est-ce qu'on a fait parce qu'on a revendiqué, ou parce qu'on est d'expression, de culture et de confession musulmane? Qu'est-ce qu'on fait, les partis politiques, et de gauche et de droite, pour essayer de nous rassurer et de ne pas nous stigmatiser? Tout ça, ils s'en rappellent, tout ça, ils le voient, tout ça, ils le comprennent. Et même s'ils n'ont pas de diplôme, ou même s'ils sont pauvres, ils comprennent très bien qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule. Et quand ils lisent, plus ou moins, et quand ils discutent, et qu'ils disent, tiens, c'est marrant, on est une société démocratique, ben, il y a le 49-3. Tiens, il paraît qu'il y a eu un référendum aux élections, un référendum de 2005 sur le traité constitutionnel, qui malgré tout a fait que, ben, on a passé outre. Tiens, ils le voient, ils l'entendent. Et ça, à un moment donné, eh ben, c'est ce qui fait que des personnes se mettent en décalage, ils se disent, puisque de toute façon ça ne sert à rien, eh ben, autant ne pas aller voter directement.
Marcel Foucault et ensuite Noël Ceinturier.
Oui, non, je suis entièrement d'accord. En fait, la perception observée sur le terrain par Jamel Blanchard renvoie en fait à ce que nous on peut observer aussi dans des éléments un peu plus qualitatifs sur les sources ou les motivations de l'abstention, comme l'a rappelé Brice Ceinturier tout à l'heure. Mais je voudrais dire une chose, parce que il s'agit pas de catégoriser et de montrer du doigt des catégories peu diplômées, non diplômées, riches matériellement, pauvres matériellement. Il s'agit de dire que par rapport à ce que vient de dire à l'instant Jamel Blanchard, il y a, si vous voulez, il y a des groupes qui sont beaucoup plus réceptifs à ce type de relation aux politiques. Lorsque l'on est peu diplômé, forcément, la lassitude va être immédiate. La colère va être immédiate aussi par rapport à des catégories plus diplômées qui ne sont pas forcément dans des quartiers ou qui peuvent aussi être dans des quartiers. Et moi, ce qui me semble être frappant, pour revenir sur, si on devait aller un peu plus loin sur le profil sociologique, c'est pas de dire que les personnes non diplômées sont plus, j'allais dire, disposées à s'abstenir. C'est d'observer que sur un temps beaucoup plus long, aujourd'hui, le diplôme ne semble plus constituer ce facteur, ce ressort essentiel tel qu'il était auparavant et comme on l'a pu l'observer pendant plus de 40 ans, 50 ans en France, avec le même matériel, des enquêtes déclaratives. Donc, ce qui valait hier doit continuer à servir de point de référence. Et c'est-à-dire, le diplôme et l'âge. Aujourd'hui, l'âge garde ce facteur décisif. Plus on est âgé, plus on était âgé, plus on a de chances d'aller voter. Mais sur le diplôme, il est en train de se produire quelque chose. Et ça renvoie aussi, pour moi, c'est un élément important, on a quand même une évolution sur le nombre de diplômés en France. Et effectivement, il y a 50 ans, être titulaire d'un baccalauréat n'a pas le même sens quand on interroge aujourd'hui une personne titulaire d'un baccalauréat. Donc, il y a des éléments aussi qui se mettent, j'allais dire, un petit peu en scène et qui nous obligent à revisiter, à réviser nos grilles sur les dimensions socio-démographiques.
Maurice Teinturier.
Moi, je crois que les variables lourdes de l'abstention que vous avez rappelées, que Céline Braconnier a rappelées, elles restent tout à fait explicatives de l'abstention. L'âge, le niveau de précarité, le niveau de diplôme aussi. L'enquête du CEVIPOF que nous avons conduite pour le CEVIPOF et Le Monde ne dit pas non plus que le diplôme ne jouerait plus du tout. Ouais. Il dit simplement que par rapport en termes d'intensité et de valeur explicative à ce qu'on pouvait mesurer auparavant, c'est une variable qui semble moins explicative qu'elle pouvait l'être auparavant. Moins explicative, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus du tout explicative. Donc les variables lourdes, elles sont toujours là, j'en suis convaincu. Après, sur la question, sur l'hypothèse soulevée, de l'interprétation de s'il y a bien une variable moins explicative à travers le diplôme qu'auparavant, pourquoi, à quoi cela est-ce dû? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait, effectivement, qu'il y a plus de diplômés, mais qu'il y a également plus de diplômés précarisé aujourd'hui qu'auparavant. Et souvent, une variable recouvre une autre variable. C'est-à-dire, c'est pas simplement une coupure entre les diplômés et ceux qui sont insérés et les non-diplômés, ce qu'on avait et ce qu'on a eu pendant très longtemps. C'est maintenant aujourd'hui aussi des diplômés qui peuvent considérer que leur insertion sur le marché du travail n'est pas au niveau qu'ils pourraient prétendre et qui fait que c'est davantage la question du revenu ou davantage la question de l'emploi qui va jouer, la nature de l'emploi, qui va jouer que le diplôme stricto sensu. Donc moi je crois fondamentalement qu'à côté des variables lourdes, vous avez aussi d'autres variables d'opinion, comme cela a été évoqué, sur, encore une fois, l'inutilité, l'incapacité de la politique à changer la vie quotidienne des individus qui se sont ajoutées, et celles-là, elles sont moins directement corrélées aux variables strictement sociologiques.
On est déjà presque au terme de l'émission. Il nous reste une minute. Toute dernière question, Céline Braconnier, sur une question qui avait fait l'objet de fortes dissensions dans notre précédente émission, qui était sur l'impact, je reviens au Front National, de l'abstention sur le vote FN. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de dire que plus il y a d'abstention, plus il y a de vote FN, ou bien qu'il n'y a aucune corrélation entre niveau d'abstention et niveau du vote Front National? Est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui finalement répondre de manière catégorique à cette question?
On ne sait pas. On n'a pas de quoi s'appuyer. On peut regarder ce qui s'est passé auparavant, mais on n'a pas de point d'appui solide pour répondre à ce type de questions. En revanche, on en a des solides pour répondre aux questions sur la sociologie de l'abstention et du retrait électoral. Pour nuancer ce qui vient d'être dit, je pense que tout dépend aussi de ce qu'on met derrière le terme de politisation de l'abstention. Évidemment, quand on parle d'indifférence ou de mise à distance de la politique, si on considère que le désenchantement, par exemple, c'est de la politisation de l'abstention, alors effectivement, presque toute l'abstention peut être considérée comme un comportement politisé. Mais il faut savoir aussi ce qu'on met derrière les mots.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Céline Braconnier, Brice Teinturier, Martial Foucault et Jamel Blanchard. Émission que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Philippine Lebray, Louise Fuseau. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Anthony Thomasson. Demain, auto-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs sont-ils les nouveaux prolétaires? Ce sera à partir de 18h20.